De Sport Club, c'est comme ça tous les jeudis 19h-20h pour partir à la découverte de sportifs, de disciplines, d'événements sportifs aussi à Reims. On fera ça tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission où on parlera voiture radiocommandée avec le Reims Enduro Model Car qui va accueillir dans quelques semaines, maintenant dans quelques jours même j'ai envie de dire, sans leur mettre trop la pression, des championnats de France, mais c'est presque devenu une tradition hein, chez eux d'organiser et d'accueillir les meilleurs pilotes nationaux. Avant ça les amis, on a toujours l'habitude d'accueillir une fois par mois à peu près, et pas à la semaine près, nos amis du Crêpes de Reims. Ils sont nombreux dans les studios aujourd'hui et on va particulièrement parler de la balle orange, du basket, parce qu'on a le centre, le pôle espoir qui est là avec nous, les garçons, les filles, le coach et puis le responsable haut niveau qui est avec nous. Salut Vincent Felizo.
Salut Julien, bonsoir à toutes et à tous.
Le coach, l'éducateur, c'est Johan Zdziorkowski qu'on a plaisir à retrouver sur cette antenne. Ça faisait un petit bout de temps, hein.
Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps.
Ça a changé, hein, la déco du studio. T'as vu, ça s'est un peu verdi là derrière toi. Ouais, on a fait un peu de déco pour rester un petit peu chill, quoi. Voilà, la représentante chez les filles, c'est Sarah qui nous fait le plaisir de sa présence dans les studios. Salut.
Bonsoir. Salut.
Bienvenue, bienvenue à toi. Toi qui es originaire, on est voisins hein, avec les Ardennes, donc voilà. Et puis Mohamed qui est avec nous aussi. Salut.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir, bien installé. Ça fait bizarre de s'entendre dans le retour à radio.
Oui.
Bah voilà, sachez qu'il y a tous les Rémois qui vous écoutent. On a quelques minutes à passer ensemble. C'est l'occasion de faire, faire connaissance, de découvrir un peu vos parcours, vous qui êtes tout jeune. Hein. La carrière elle est plutôt devant que derrière vous. Mais ce sera l'occasion d'en parler. Avant ça, on a toujours une petite tradition avec toi, Vincent. On prend toujours des petites nouvelles du Crêpes de Reims. Là, je sais qu'on est en pleine période. Peut-être même c'est déjà passé au mois d'avril de recrutement, de refaire un peu les effectifs pour la prochaine saison.
Alors, c'est en cours. Ça a commencé depuis quelques semaines, mais non, rien n'est finalisé. Et c'est au programme du mois d'avril et du mois de mai.
Exactement. Super, donc ça veut dire que là, ça va être chaud. Là.
C'est ça, exactement. Ouais.
Le basket en fait partie d'ailleurs. Là, c'est le moment où on fait les recrutements, qu'on regarde un petit peu tout le monde, qu'on fait les détections.
Alors, sur le Crêpes, pas encore. On a déjà vu la génération sur plusieurs événements, on va dire. Mais nous, on fait un week-end de détection, là, du 11 au 13 avril, avec les jeunes qui sont nés en 2012.
Oh là, 2012. Oh là, il met une claque d'entrée, quoi. U15, ça fait quelle année pour vous? 2003, 2000... Non, qu'est-ce que je dis? Quelle année vous êtes né, vous?
2010.
Ah ouais, 2012 tout à l'heure, 2010 là, bon... super, bon, on va rester copains quand même. Oui, là ça va être chargé. Est-ce qu'il y a quelques nouveautés qui se préparent malgré tout pour la rentrée 2025, du coup pour la saison 25-26?
Alors il y a des nouveautés sur le plan des sportifs, effectivement, des structures accueillies, pas forcément, même s'il reste un projet là actuellement sur une discipline paralympique qui pourrait rentrer dès septembre.
Cool.
Oui, avec des sportifs qui ambitionneraient de préparer Los Angeles 2028 et Brisbane 2032.
Il va falloir s'habituer
à ces villes.
Los Angeles, on avait, Brisbane peut-être un peu moins.
Voilà, donc ça sera... A priori, ça pourrait se décanter là dans les prochaines semaines pour une rentrée dès le mois de septembre. Et puis après, sur les autres structures, pas de modification, si ce n'est sur le Pôle France Kickboxing que tu avais reçu déjà,
ouais,
il y a quelques semaines.
Absolument, début de saison, ouais.
Un effectif un peu plus conséquent avec une vingtaine de boxeurs a priori, donc voilà, ça va se densifier, voilà.
Qui se propose, ouais, effectivement. J'ai pu voir sur vos réseaux qu'il y avait toute une nouvelle signalétique pour qu'on évite de se perdre sur le Crêpes de Reims, qui finalement, c'est vrai, quand on y habite ou quand on y travaille est facile à repérer, mais finalement quand on vient de l'extérieur c'est pas toujours simple hein. C'est vrai, donc là j'ai vu qu'il y avait un peu de couleur, un peu de tout ça.
Ouais, c'est très agréable, et en plus là avec la finalisation d'un bâtiment d'hébergement qui va être terminé a priori pour le mois de juin avec une ouverture officielle dès le mois de septembre, ça, c'était important de retravailler sur la signalétique parce que je pense que les gens auraient aussi confondu l'accueil entre ce bâtiment et puis le bâtiment historique du Krebs. Donc voilà, c'était important de travailler sur cette signalétique. On a quand même beaucoup d'extérieurs qui viennent, hein. Il n'y a pas que des stagiaires en formation et des sportifs. Voilà, il y a plusieurs actions liées avec la jeunesse, la politique de la vie associative. Donc c'est important que les gens s'y retrouvent quand ils arrivent au Krebs.
Bon, et puis sur le côté sportif, bon, bah, ça bat son plein un peu partout, hein. Alors après, selon la temporalité des disciplines, il y a toujours un peu des décalages. Certains arrivent plutôt à la fin de leur saison, d'autres en entament une nouvelle. Donc là, bah, c'est pareil, ça part dans tous les sens. J'ai vu qu'en escrime, voilà, ça c'était escrime, pas mal de choses intéressantes.
Ils sont effectivement en plein cœur de la saison internationale. Ils partent la semaine prochaine en Chine. Donc il y a deux pensionnaires, Théo Mitraille et Nolan, qui partent en Chine pour les mondiaux juniors.
Comme par hasard, les deux qu'on a reçus ici.
C'est vrai.
Je vous dis ça à vous, normalement on porte chance pour la suite des carrières.
Tu remarqueras les choix de sportifs à chaque fois.
Tu remarqueras que sans Faïdo, elle n'est creuse.
Et ensuite on se retrouve effectivement avec pour eux une épreuve qui était en Turquie il y a quelques semaines, où ils ont ramené une médaille d'argent par équipe.
Ouais,
on a eu un gros mois de février, un gros mois de mars avec des échéances importantes. Il y a eu le Festival Olympique de la Jeunesse aussi, avec du short track qui a été désigné meilleure nation avec les jeunes du Pôle France.
Oui, ça s'est bien passé.
Il y a eu les Mondiaux Juniors où on a Lisa Victoria, qu'on a reçue, si je ne me trompe pas. On avait
non, elle est pas venue. Non.
Ah oui, on l'avait pas. Oui, c'était pas, effectivement, c'était une autre personne. Et qui termine quatrième, donc c'est assez prometteur. Et d'ailleurs, c'est des sportifs qui sont dans le collectif, là, dès le mois de mai, pour envisager les sélections olympiques à l'automne, puisque on va vite arriver au JO d'hiver 2026 Milan Cortina.
C'est vrai que c'est fou là, enchaîné. Hein.
Et les deux ou trois jeunes de ce pôle peuvent prétendre peut-être à une sélection olympique à 17 ans, donc ça serait fabuleux.
Ouais.
Donc voilà, ils vont être dans la course avec voilà, avec d'autres patineurs français, mais il y a de bon espoir que l'un d'eux au moins figure.
Super. Certains et certaines d'ailleurs qui se sont ultra chaulés, hein, lors des championnats de France sur le week-end qui vient de passer. C'est vrai que les disciplines hivernales vont se mettre un petit peu coup de boost, parce que là ça va être une saison très déterminante avec les jeux.
C'est bien
en février prochain.
De parler d'eux, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de Paris 2024 pendant 4 ans, voire un peu
alors,
plus.
On va parler d'hiver jusqu'à 2030. Hein.
C'est ça.
Puisque ça devrait se passer pas loin de chez nous, ici, en France. Ok, pour ça, on continue de suivre, hein, évidemment. C'est vrai que, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'elle est très éreintante, cette saison, parce qu'on est seulement début avril, on commence déjà à parler de fin de saison, comme si on était content qu'on y arrive. Quoi.
Et comme tu dis, pour d'autres, c'est le début de la saison.
Oui, il y a le triathlon.
Il y a le triathlon. Et ils ont les championnats de France de duathlon d'ailleurs ce week-end. Et certains sont aussi qualifiés pour une Coupe d'Europe. On a Thomas Manel qui va faire une Coupe du Monde aussi en Ouzbékistan au mois de mai. Donc voilà, pour eux c'est le début de la saison.
Bon, bah on va suivre ça toujours avec autant d'intérêt et autant de passion, et évidemment. Au basket aussi, hein, dis donc, ça travaille, Johan, j'imagine. Quand on arrive comme ça début avril, on arrive quand même sur une deuxième partie de saison où les acquis travaillés sur la première partie, sur le côté plus individuel, doivent se faire ressentir désormais.
Alors oui, tout à fait, on a coutume de dire, même si c'est pas une vérité absolue, mais de manière générale, qu'on arrive au mois de mars un peu sur le pic de croissance, vraiment le pic de progression de la saison. Voilà, après, ça dépend des cas. Par exemple, le Mohamed, il a eu une blessure au niveau du genou.
Aïe.
Qui n'a rien de grave, mais qui a nécessité...
Peut-être pas les mêmes conséquences.
Il est revenu en pleine forme, mais qui a nécessité un long arrêt, donc qui a forcément freiné et retardé peut-être ce pic de progression. Mais bon, il est en train de revenir en pleine forme, donc c'est très bien. Et puis on a des échéances importantes qui arrivent sur le plan collectif, pas que pour le pôle de Champagne-Ardenne, mais pour certaines et certains de ses membres, puisqu'ils ont été retenus, donc les deux qui sont là, sont retenus dans la sélection régionale U15 du Grand Est, et qui, dans deux semaines, va jouer sa qualification pour les finales nationales. Et les finales nationales, en fait, c'est l'événement en dehors des équipes de France jeunes. C'est l'événement le plus relevé, en fait, de ce qu'on appelle le projet de performance fédérale de la fédération.
Bon.
Donc c'est toujours extrêmement intéressant de pouvoir s'y qualifier. Si le Grand Est ne s'y qualifie pas, il y a une deuxième chance, puisqu'il y a une équipe au final national qui s'appelle l'équipe des potentiels. Et donc parmi les équipes qui ne sont pas qualifiées,
on prend les meilleurs éléments.
Voilà, c'est exactement ça. Et Sarah l'a déjà fait avec un an d'avance l'année dernière. Donc elle a déjà cette expérience-là.
Parce que le Grand Est, sinon, c'est quoi? C'est le parent pauvre en basket ou c'est juste que bon, il y a des années comme ça où ça se passe moins bien que prévu?
Alors en fait, sur ce tournoi qualificatif, il est très relevé parce qu'on y affronte la Normandie, les Hauts-de-France et l'Île-de-France.
Ah ouais, quand il y a Paris dans l'histoire.
Voilà. Mais il y a deux places qualificatives, donc il faut essayer de faire l'exploit contre l'Île-de-France. Et sinon, bah, il faut. C'est un match à trois, on va dire, contre la Normandie et les Hauts-de-France. Donc c'est très concurrentiel.
Bon, pas trop fatigué, les jeunes, c'est vrai que là, c'est là où il y a le plus d'enjeux, donc c'est là où on doit être prêt dans tous les sens du terme, c'est-à-dire physiquement, mentalement, personnellement. Sarah ?
Non, ça va.
On va revenir d'ailleurs hein, sur votre quotidien au pôle parce que c'est vrai Johan qu'on peut expliquer peut-être, on a reçu beaucoup dans le cadre des émissions avec le Krebs de Reims des jeunes qui sont intégrés au pôle, qui sont issus de disciplines dites individuelles. Là on est sur des sports collectifs donc il faut aussi rappeler qu'ils sont attachés et licenciés à des clubs, donc ils travaillent avec le Krebs la semaine, il y a les matchs le week-end avec les clubs, donc c'est une organisation et une intensité de travail qui est quand même pas anodine hein, pour des jeunes de cet âge-là.
Exactement, et encore là, on a les deuxièmes années, même Mohamed, on est à sa troisième année, mais pour les premières années qui arrivent, le rythme, la découverte du rythme, quand on s'entraîne deux fois par semaine dans son club l'année dernière, elle est énorme, et c'est ce qu'on leur dit quand on fait justement les recrutements, on ne leur cache absolument rien, on leur dit que ce sont des semaines qui sont folles, et qu'ils ont déjà un rythme de sportif de haut niveau, voire plus, parce que les sportifs de haut niveau, ils ne retournent pas en cours le matin à 8h le lundi. Quoi.
Oui, c'est ça, plus les cours quand même, enfin la scolarité à suivre, plus toute l'émotion que ça génère, la séparation avec le quotidien qu'on a connu jusque-là, tout ça, c'est pas toujours évident à intégrer. Quoi.
Non, après ça devient une libération au fil des mois, mais bon.
C'est vrai, on est mieux loin de papa et maman, Sarah, ou comment?
Oui.
Ils n'écoutent pas, tu peux pas le dire. Ils diront rien si on dit oui. Raconte-nous d'ailleurs, Sarah, parce que je crois que quand tu es arrivée ici au Krebs de Reims, tu faisais partie, si ce n'est tu étais la plus jeune du groupe au pôle chez les filles, c'est ça, ouais?
Oui, c'est ça.
Raconte-nous un petit peu, alors du coup, quand on arrive et qu'on découvre un petit peu, effectivement, un autre lieu, une autre façon de travailler, et qu'on est malgré tout quand même un peu jeune, comment tu as vécu tout ça et comment ça a intégré aujourd'hui?
Au début, moi, c'était compliqué, la séparation avec la famille surtout. Et au fur et à mesure du temps, on s'est habitué, comme on dit, et on est un peu mieux loin de la famille. Et maintenant, c'est une habitude.
Mieux dans le sens où ça veut dire quoi? Tu peux travailler correctement, tu sais que voilà ce que tu fais ici, les efforts que tu fournis, ça te sera forcément utile et c'est forcément pour la suite plus intéressant.
Oui, voilà, on est plus concentré sur nous-mêmes.
Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, alors même si tu es toute jeune, on a compris, avec mon très bon calcul en mathématiques tout à l'heure. Explique-nous un petit peu ton parcours à toi, Sarah.
Moi, du coup, ça fait maintenant 2 ans que je suis au pôle. L'an dernier, depuis, on a fait plein de stages, de compétitions. Du coup, l'an dernier, j'ai fait tous les stages par rapport au projet de performance. J'ai réussi à atteindre les équipes de France jeunes avec un an d'avance. Et cette année, je vais faire le type là, dans une semaine.
Et comment on aborde ça? Parce que c'est vrai que quand je me renseigne un petit peu sur Sarah Ranguet, tout le monde me dit « alors là, c'est la pépite ardennaise ». Donc, comment on vit ça de l'intérieur? Est-ce que ça met une certaine pression? Ou alors toi, tu vis ton truc comme tu peux, tu fais du mieux possible et tu te prends pas la tête? Comment tu le vis, toi?
Déjà, par rapport à l'an dernier, tout ce que j'ai fait, c'était avec un an d'avance. Donc, en soi, on n'a pas trop de pression. On se dit juste que si on est prise, ce sera de l'expérience en plus. Et si on n'est pas prise, on aura l'an prochain. Par contre, par rapport aux échéances de cette année, ça met toujours plus de pression. En plus, on l'a fait avec un an d'avance. Donc, on se dit qu'on doit être prise et ça met forcément un peu plus de pression.
Ouais, on a envie peut-être d'en faire un peu trop parfois ou de faire trop bien. Et c'est peut-être ça parfois le truc qui fait que c'est un peu plus dur.
Oui, voilà.
Raconte-nous un petit peu ton profil. Je crois que tu as commencé plutôt avec un profil un peu arrière, c'est ça? Aujourd'hui, Johan peut-être pourra nous parler de ton profil aussi, mais plus à la main, c'est ça?
Oui, en rentrant au pôle, avant d'être au pôle, j'étais plus extérieur, donc plus une 2. Et en rentrant au pôle, je suis devenue une vraie meneuse.
Et quelle progression t'as senti dans ce cadre-là? Est-ce que toi, tu te laisses guider un petit peu parce que les encadrants, les coachs te disent? Ou alors, toi aussi, tu sens vraiment un intérêt à évoluer dans ce sens-là?
Bah oui, forcément, on se laisse guider. Mais ouais, moi, je me sens plus essentielle au poste de meneuse à l'heure d'aujourd'hui.
Avec beaucoup de responsabilités, hein. Ça veut dire qu'il faut savoir shooter, il faut savoir distribuer, faut faire briller aussi le reste de l'équipe. Sur quels critères on se base, Johan, quand on voit un profil comme celui de Sarah pour justement faire évoluer ce profil et le faire grandir dans son intérêt, j'imagine?
Par rapport à Sarah, il y avait un élément, bon, il y a un élément de taille déjà qui peut rentrer en compte, c'est pas plus forcément une vérité à haut niveau, mais pour être détecté sur un autre profil. Parce que plus on change de poste et plus les critères de taille deviennent exigeants. Donc pour Sarah, en fait, la question c'était est-ce qu'elle présentait le potentiel pour se transformer, pour se modifier et acquérir ces nouvelles responsabilités. Il y avait beaucoup de choses à transformer. Il y avait tout ce qui était leadership, tout ce qui était côté vocal, tout ce qui était contrôle de soi.
Ça veut dire que tu t'exprimes beaucoup sur un terrain?
Oui.
Ah ouais.
Très vivante. Très vivante.
C'est un joli mot, ça, très vivante.
Oui. Confirme. Si sa mère nous entend, elle confirmera aussi.
Beaucoup de mamans quand même ce soir. Hein.
Et après, il y avait aussi chez Sarah, pas une problématique, mais un gros axe de progression sur la gestion des émotions, sur l'utilisation des émotions. Et grâce, on peut faire de la pub, hein, au préparateur mental du CREPS, Stéphane Limousin,
qu'on salue, ouais.
Avec qui elle travaille depuis 15 mois maintenant, il y a été pour beaucoup aussi dans l'avancée qu'elle a pu avoir à ce niveau-là. Et j'aimerais bien aujourd'hui, j'espère qu'elle en mesure le chemin qu'elle a parcouru, parce qu'elle a aussi énormément travaillé, hein. C'est pas moi ni Stéphane qui sommes marionnettistes, c'est elle qui travaille. Elle en a encore besoin d'être accompagnée, voilà. mais voilà, donc il y avait ces critères-là, et puis on a testé, hein. Il n'y avait aucune certitude sur le fait que ça allait marcher, qu'elle allait réussir. On a testé, on a évalué, on a remodifié des choses, et aujourd'hui ça l'amène là où elle est. Quel que soit ce qu'elle en pensera, ce sera une réussite.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, ce que je retiens, c'est que tu retiens des critères mentaux, un peu physiques, mais finalement pas tant techniques, sur un poste qui l'est malgré tout. Alors, ils le sont tous, hein, tu me diras, mais c'est vraiment sur ces postes-là un peu la maturité globale à avoir.
Alors, techniquement, elle était déjà en avance par rapport aux autres filles de sa génération, donc c'était pas un problème en soi. Il fallait juste apprendre à réguler, en fait, et à mieux utiliser ses armes. Mais voilà, maintenant, elle travaille aussi là-dessus. Mais c'était pas un critère qui allait la pénaliser.
Sachant qu'on regarde aussi, on essaye de sentir le basket d'aujourd'hui et bien sûr de demain, parce qu'elle appartient à la génération qui arrive, Sarah et Mohamed aussi. Et du coup, on essaye de prendre en considération ça, de dire l'évolution du basket aujourd'hui, les postes d'arrière, les postes de meneuse. En 2025, en 2028, en 2030, ce sera plutôt ces profils-là qu'on recherche avec ces qualités-là.
On a notre identité aussi en France. Dans la manière de détecter, de former, on a les qualités athlétiques qui entrent en jeu.
Qui font leurs preuves, a priori.
Qui font leurs preuves, ça passe pas trop mal. Même si on regarde aujourd'hui une Pauline Astier qui est en pleine éclosion avec le club de Bourges en équipe de France et qui va aller se tester à l'étranger, c'est aussi un exemple qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a d'autres qualités qui peuvent être prises en compte. Nous, on s'est occupé des qualités de Sarah. Ces qualités athlétiques là, sont un critère qui est aujourd'hui existant dans le basket de haut niveau féminin. Voilà. Du coup, on s'est appuyé là-dessus. Qualité athlétique, qualité technique. Et après, le plus gros travail, c'était pas ça, c'était la personnalité dans le sport.
Alors, au-delà de ça, en plus de ça, je crois que ça appartient au club de Charleville.
Oui.
Chez qui, en élite, il y a des personnalités à la main qui sont plutôt connues, j'allais dire. Hein. Des gens qui arrivent plutôt en fin de carrière, d'autres qui démarrent un peu la leur. Enfin bon, j'imagine que tu regardes aussi les grandes et le parcours qu'elles font. Oui. Pour le coup, des gens qui crient et qui impactent sur le terrain. Pour suivre un petit peu Charleville, il y a des personnalités quand même. Hein. T'as des relations avec les plus grandes ou alors chaque catégorie le week-end fait un petit peu sa partition dans son coin?
Plus le centre de formation. Après les pros, pas généralement.
Ok. T'as une inspiration, toi, quand même. C'est venu comment, d'ailleurs, le basket ? Il y a une famille de basket à la maison ou...
Non, famille de sportifs, oui, mais pas de basket.
Ok, ils faisaient quoi, les autres ?
Mon papa du foot, mon grand frère et ma mère du hand.
Ok, donc famille quand même sportco.
Oui.
Quand même. Et le basket, c'est venu comment alors ? C'est parce qu'un jour, c'est quoi ? C'est l'école ? C'est à la maison ? C'est avec les copains, copines ?
Non, comme ça. On avait une initiation, je crois. Et ça m'avait plu, du coup, j'ai continué.
En général, quand ça nous plaît, c'est qu'on y arrive plutôt pas mal dès le début déjà.
Oui, oui.
Ah, ouais, bien sûr. si t'avais pas réussi tout de suite, peut-être t'aurais fait autre chose. Compte tenu de ce qu'a dit Yoann il y a quelques instants, est-ce que toi, tu t'imaginais déjà tout le travail, tout l'investissement que ça nécessitait pour arriver là où tu es aujourd'hui ? Parce qu'on l'a dit, il faut intégrer le rythme, le nombre d'entraînements par jour, la scolarité à côté. Est-ce que déjà, quand t'es arrivé, que tu t'es engagé au Crêpes de Reims, il y a quelques temps maintenant, tu t'imaginais l'investissement que ça nécessitait ?
Bah oui, forcément un peu, parce que déjà rien qu'au test d'entrée on nous présente ce que c'est le pôle espoir et on s'y attend forcément. Et par rapport à la charge d'entraînement, moi ça m'a pas trop changé que ça parce que j'en avais déjà pas mal par semaine. Mais après, par rapport au rythme entre les entraînements et l'école, faut juste s'y habituer.
Le rêve d'après, c'est quoi? C'est l'INSEP?
Oui, mais...
Bon, je sais qu'il y a eu une étape voilà, un peu, il y a eu un petit décalage dans l'étape prévue, mais bon... Voilà. Il y a une déception quand même là de se dire ah, ça aurait pu se faire un peu plus vite finalement.
Bah oui, forcément. Ouais. Et puis c'était à rien en soi.
Comment tu le vis aujourd'hui là? On est début avril, tu dis bon, c'est pas grave, maintenant j'accepte et puis on travaille encore plus fort pour aller plus loin.
Oui, voilà.
Ton objectif, ton rêve, c'est, bon, évidemment d'en vivre, j'imagine, d'en faire une petite carrière, mais tu t'es déjà projeté un petit peu sur ce que tu voulais faire plus tard?
Bah, au mieux finir joueuse pro et atteindre les équipes de France.
Ok. Mohamed, le rêve, c'est quoi, toi ?
La même chose, finir joueur professionnel, aller plus haut championnat.
Bon, ça part plutôt bien. Comment toi, raconte-nous un petit peu ton parcours, on t'a pas encore entendu jusque-là.
Oui. Alors moi, je suis arrivé au pôle espoir de Reims sur la saison 2022-2023, avec un an d'avance. Du coup, j'étais U13 sur un championnat U15. Ensuite, j'ai fait l'année d'après, j'ai fait plusieurs échéances avec un an d'avance, le tournoi Interpol, qu'on va faire bientôt dans quelques semaines.
Ouais.
Et cette année, j'ai réussi à faire le camp Interzone, suivi du camp NAT. Et j'ai pas été retenu sur les joueurs qui étaient sélectionnés sur le Pôle France.
Toi, comment tu le vis justement cette période-là ? Parce que tu dis effectivement, maintenant tu te fixes un objectif. C'était peut-être pas l'objectif que tu te fixais au départ. Là-bas, c'est quoi le basket ? C'est juste un kiff ? C'est juste un plaisir ?
Non, c'est un objectif.
Ah, très vite, très tôt déjà ?
Oui.
Ouais, ok. T'as des inspirations de carrière aujourd'hui que tu suis particulièrement en France, ailleurs ? Pas forcément.
J'ai peut-être des joueurs que je suis
du
dans
style
les grandes lignes. Genre en NBA, LeBron.
Ah ouais,
je suis beaucoup sa carrière.
Ouais. Bon, en même temps, c'est pas une petite carrière. Hein. Oui, je peux comprendre que ce soit assez motivant. Joanne, sur Mohamed, qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeune profil également ? C'est assez grand déjà.
Hein. Il est devenu grand. Hein. Il va falloir qu'il se calme un petit peu.
Pourquoi il a eu une croissance un peu décalée, non ? Quand il est arrivé au pôle, il n'était pas...
Il est arrivé à l'âge de 11 ans. C'est ça, hein.
Oui.
L'âge de 11 ans, et en fait, on l'avait. Mon collègue Yévin,
qui
l'avait détecté via le club dans lequel il s'entraînait, il n'est pas passé par les sélections départementales la première année, mais nous, on a quand même souhaité le voir. Et il y avait un profil à grandir, on appelle ça les profils longilignes, puisqu'il a une envergure d'albatros, donc ça aide un petit peu au basket, pour bien défendre et autres notamment.
Donc grosse amplitude.
Grande amplitude, mais le paradoxe de ça par contre, c'est que quand le corps grandit, les grands membres en fait sont difficiles à contrôler. Et donc lui, il a fallu qu'il travaille un peu plus que les autres techniquement, pour apprendre à shooter avec une bonne coordination et autres. Mais par contre, voilà, nous ce qui nous plaisait chez Mohamed, c'est que c'est quelqu'un de calme, de concentré, qui retient bien les choses.
Il a l'air assez posé ce garçon, mais peut-être sur un terrain ça doit bouger un peu quand même.
Ça bouge sur un terrain ?
Oui. plus maintenant qu'avant, mais...
Merci, c'est ça.
Au début j'étais plus calme.
Trop gentil peut-être ?
Oui, ouais. Trop, beaucoup, ouais. Beaucoup trop.
Ok.
Et qui dit profil longiligne dit qualité athlétique pour en étant plus jeune, qui sont pas encore là, qui sont pas encore présentes. Donc c'est pareil, il a travaillé avec Brice Latruffe notamment, et
ouais,
puis avec
prépa
le reste,
physique, ouais.
Prépa physique sur tout le travail de motricité, de vitesse, d'explosivité, de prévention des blessures et autres. Et maintenant c'est un athlète. Ce matin, il s'est fait plaisir à l'échauffement. Hein.
Oui,
il s'est fait plaisir.
Il s'est passé quoi ce matin ?
Il a mis 2-3. Il est juste en retour de blessure. Il a mis 2-3 tomards, comme on dit, sur la fin de l'échauffement. Voilà, tout fier de lui. Mais après, il a travaillé pour le faire. Donc maintenant, il ne faut pas s'en priver. Et là où c'est intéressant, c'est que souvent, quand on est jeune comme ça, bah, quand on commence à y arriver, on essaye de faire que ça. Et autre. Mohamed, il a le cerveau pour rester posé par rapport à ça. Je mets des petites pièces en même temps.
Oui, je crois que les messages passent. Hein. Ouais. Vous entendez, là.
Mais pour pouvoir, en fait, continuer à avoir des lectures de jeu qui lui font faire les bons choix. Voilà, c'est ça le plus important.
Et j'ai une question que je pose à tous les deux, parce que finalement vous êtes dans une situation similaire. Vous appartenez à un pôle avec tous les deux des objectifs qui sont personnels, mais dans un club, enfin dans une discipline qui est collective. Donc il y a à la fois des matchs à gagner quand vous êtes avec les sélections Marne, Grand Est, etc. sur un travail qui est collectif, et en même temps le but c'est aussi de se faire remarquer. Comment on gère ça, j'allais dire quelque part un peu la concurrence, je sais pas si vous appelez ça la concurrence d'ailleurs vous, entre vous les jeunes, mais on sait que les places, et vous le savez mieux que moi d'ailleurs, sont assez chères, donc comment vous le vivez au quotidien ça, côté un peu concurrence, cadeau Mohamed, elle a dit ça, vas-y c'est toi qui réponds.
Bah, le fait de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est, ça rajoute un peu de beaucoup de détermination.
Toi, ça te booste.
Oui, ça pousse. Ouais. Ça pousse beaucoup à faire peut-être plus d'efforts que l'autre qui est à côté de moi.
Vous avez conscience de ça parce que un esprit club, et alors peut-être Johan peut nous en dire aussi quelques mots, mais un esprit club et un esprit pôle, je ne sais pas si c'est pareil en fait, l'ambiance est la même.
Bah, vu que nous, pendant la semaine, on s'entraîne avec les mêmes personnes et qu'on joue avec les mêmes personnes en club, bah, ça ne change pas forcément.
Ouais, vous êtes des potes.
Oui.
Toi, pareil, Sarah ?
Oui, nous aussi, c'est pareil.
Johan, là-dessus, c'est vrai qu'ils ont tous le même objectif. L'idée, c'est qu'il y en a un maximum qui y arrivent. Hein, on leur souhaite tous, hein, mais on sait que c'est rarement le cas.
C'est tout le paradoxe du pôle espoir, en fait. C'est qu'on travaille ensemble pour se développer individuellement, en mettant du sens dans le collectif du jeu. Et aussi, on est déjà en concurrence les uns avec les autres, en fait, à l'intérieur du même pôle.
C'est quelque chose que vous verbalisez, ça, entre vous, les éducateurs, les jeunes entre eux ? Je ne sais pas si c'est des choses que vous évoquez entre vous.
On l'évoque, mais on va dire ça vient dans les conversations comme ça, ça vient sur des entretiens bilans, ça vient sur des choses. Mais c'est une bonne question d'ailleurs, parce que peut-être qu'il faudrait qu'on insiste un peu plus là-dessus.
Bon, par exemple, est-ce que, en plus, le basket, c'est par essence le sport de la stat. Est-ce que vous faites attention à ça, par exemple, quand vous êtes en compétition ? Est-ce que vous regardez vos lignes de stats, selon vos postes, évidemment ? Est-ce qu'on regarde le nombre de passes, par exemple, Sarah, ou le nombre de points ?
Bah, en soi, on ne les a pas forcément tout le temps. Surtout quand on est sur des stages ou quoi, on ne les a jamais. Donc, à moins de compter ou de...
Bon, tu dois savoir quand même à peu près si tu fais des belles prestations,
oui,
ou
voilà.
Pas.
Ouais. Ouais. On a toujours une idée de si on a bien joué ou non.
Mais est-ce qu'on le ressent, ça, quelque part, de se dire là, je suis dans des bonnes conditions, je suis en train d'appliquer les consignes qu'on m'a données. Est-ce que très vite, qu'on soit en compétition ou autre, on ressent ce moment-là?
Oui, ça se ressent toujours.
Ouais. Plus qu'en stats, je crois que c'est Rémi Lesca, une fois, ancien joueur du CCRB, qui me disait, des fois, les lignes de stats, c'est important, et des fois, ça veut rien dire, parce que si on a une ligne de stats à 3 points qui est terrible, mais qu'on met celui qui fait gagner l'équipe, on reste quand même le joueur du match. À défaut d'être le MVP, on est celui qui... Toi, Mohamed, les stats, au-delà de martyriser le panier, tu fais attention un peu ?
Les stats, cette année, un peu plus qu'avant, mais c'est pas la chose qu'on regarde le plus. Souvent, on regarde les différents efforts qu'on peut faire pour l'équipe et sur nos différents atouts apportés à l'équipe.
Johan, pour conclure, alors donc on a compris les prochains objectifs là, mais les jeunes, quand ils sortent du pôle, l'objectif, au-delà d'un contrat, au-delà d'un avenir, ils doivent ressortir comment les jeunes ça doit être des athlètes, ça doit être des hommes et des femmes, des citoyens, ça doit, les deux.
Nous, on parle de triple projet.
Le fameux.
Voilà, le scolaire étant la priorité, le sportif arrive derrière, mais il y a aussi le troisième volet de ce projet qui est se construire en tant que futur adulte. Et donc pour nous, la capacité à s'organiser, l'autonomie, se prendre en main, aller chercher un petit peu plus que ce que nous on leur donne à manger. Voilà, toutes ces choses-là et puis, sont pour nous prioritaires parce que le sportif, il se construira que là-dedans et pas dans les statistiques, comme tu disais, ou dans la performance. Voilà, parce que, comme tu le disais, on peut avoir une super ligne de stats, marquer 25 points, mais si jamais on en fait prendre 30 à son équipe parce qu'on ne fait pas les efforts défensifs, voilà, donc il y a un état d'esprit, il y a des valeurs à avoir. Et pour nous, c'est ça qui est le plus important, c'est de sortir avec des valeurs. Quel que soit le niveau sportif, je donne un exemple, mais souvent... Quand on sort du lycée ou un truc comme ça, qu'on veut aller dans une école ou autre, quand on a marqué Pôle Espoir sur le curriculum vitae, et que les gens savent les efforts et les sacrifices que ça demande, surtout à cet âge-là, bah c'est toujours un gros plus.
Ouais. Et c'est plus ou moins difficile de faire comprendre à cette génération-là, qui est une génération très portée sur l'image, les réseaux, je ne sais pas si vous êtes un peu comme ça, mais on est globalement sur une génération qui est beaucoup portée vers l'extérieur. Donc est-ce que c'est plus dur de faire passer ce genre de message aujourd'hui qu'avant ? Ou finalement, bon, les modes et les technologies changent, mais finalement on est tous un peu comme ça quand même.
Bah, nous, on évolue avec ça aussi, hein, dans nos discours, dans nos façons de travailler, d'aborder les choses. Moi, je n'aborde pas du tout un groupe aujourd'hui comme je l'abordais il y a 5 ou 10 ans. Mmh. Parce qu'il faut évoluer, il faut aussi se développer, nous, en tant qu'entraîneurs. Si on veut que nos pôles performent et nos jeunes sortent de là en étant devenus la meilleure version d'eux-mêmes, il faut que nous aussi, on évolue. Donc... Je ne saurais pas te répondre à cette question parce que ce n'est pas comparable avec l'approche d'il y a 10 ans.
Finalement, en fait, c'est trop différent pour qu'on puisse...
Tout à fait.
Ouais. OK. Bon, les jeunes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, dans les prochains jours, prochaines semaines ? Donc, on a compris déjà la santé au top. Là, c'est OK pour tous les deux. Maintenant, tout est OK.
Oui,
et ensuite, les prochaines échéances à court et moyen terme pour vous, c'est quoi alors ?
Bah, à court terme déjà, sur le type qualificatif.
Ouais.
Pouvoir décrocher une place en
prendre la qualif
au final national. Mmh. Et bah, si on n'a pas eu cette chance, pouvoir décrocher une place sur les potentiels. Pour pouvoir participer au final national.
Sarah, pareil.
La même.
Pas besoin d'utiliser beaucoup plus de salive que ça. En vrai, on vous souhaite le meilleur. C'est cool cette expérience radio alors. Au final, c'est passé vite. Hein. On arrive au bout d'une demi-heure là déjà. Hein. Voilà, bon, je vous vois avec un petit sourire quand même. Ouais, j'arrive à avoir un petit sourire de moi-même, je suis content, ouais, ça marche. Bon, on continue de vous suivre évidemment, et puis on espère toujours porter un peu chance, nous, pour tous les jeunes qui passent ici dans ces studios. Et c'est vrai qu'avec Vincent, on a un petit palmarès sympa quand même. Hein,
donc, ouais, et des médailles même olympiques. Hein.
Donc, bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Surtout qu'au basket, généralement. De France de basket brille sur les derniers JO à chaque fois.
Ah oui, d'ailleurs on a appris, je ne sais pas si tu le savais Sarah, que les grandes vont revenir à Reims bientôt là, à la fin du mois prochain, puisqu'elles étaient déjà venues en préparation des Jeux Olympiques Paris 2024. C'était à l'Arena, cette fois ça sera plus sur René Tis que ça va se passer pour une double confrontation face à la Turquie. Il y aura une des deux rencontres qui sera à huis clos, donc vous pourrez en voir qu'une des deux. Mais ça tombe bien parce que celle que vous ne pourrez pas voir, c'est le soir où il y a la finale de la Coupe de France de foot. Donc ça fera un super week-end. Vous aurez le foot le samedi soir et le dimanche. Les filles de l'équipe de France, donc vice-championne olympique hein, quand même, pour un point. T'avais suivi ça toi ?
Oui, oui.
Derrière la télé ?
Oui.
Alors ce point, il est quand même rageant, non ?
Oui,
il faut le boule un peu. Bon, bah tu sais, la prochaine génération sera peut-être toi qui ira chercher la médaille d'or avec l'équipe de France contre les Américaines. On vous le souhaite, Mohamed, pareil aussi.
Merci.
Bonne chance pour la suite de vos carrières respectives. Johan et Vincent, merci beaucoup.
Merci à toi.
Est-ce que les jeunes, dans vos loisirs, vous avez le temps de jouer parfois aux petites voitures radiocommandées ? Parce que vous savez que ça, c'est une discipline qui est top. Hein. Oh, vous allez me dire, pas trop le temps. Hein.
Peut-être, des fois.
Très bonne réponse, tu vas aller loin, toi. Je pose la question parce que c'est le sujet dont on va parler dans quelques instants avec le Reims Enduro Model Car. C'est une association sportive ici à Reims qui est située plutôt sur la zone Trois Fontaines, qui a des super pistes en indoor et en outdoor et qui vont accueillir bientôt des championnats de France. Donc là, ça va faire un peu de bruit, mais vous allez voir, c'est passionnant. Si vous avez l'occasion de voir ça, vous allez checker sur YouTube, vous allez voir, c'est génial. 19h passé de 33 minutes, le temps de faire une courte pause. On va s'écouter Coldplay. J'ai pas fait exprès pour le titre, mais il est plutôt sympa. Ça s'appelle Good Feelings. Tout est dans le titre. Et on revient donc juste après. Merci beaucoup à vous quatre.
Merci.
Merci.
Et à tout de suite pour la suite de l'émission.
maybe we saw the sunshine too. And we were born for each other. Just remember, baby, whatever we go through, all the good feelings for one another. As we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go. As we dance to the radio, all the good, good feelings we have for each other. Don't ever, ever let them go.
Club, le mag.
Passé de 36 minutes, vous êtes toujours sur RJR, vous écoutez le MAC de Sport Club, on est ensemble et en direct jusqu'à 20h, on a donc encore de belles minutes à passer ensemble. Après le basket, d'ailleurs j'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure avant qu'on se quitte, mais pour celles et ceux qui veulent retrouver l'intégralité de l'entretien et de cette émission, donc la partie qu'on va évoquer aussi, vous retrouverez évidemment l'entièreté de l'émission du MAC de Sport Club en ligne, en replay sur notre site internet sportclub-reims.fr dès demain dans la journée, et puis également sur l'ensemble de nos supports numériques. J'aurai l'occasion de le redire d'ici là, mais avant ça, je veux accueillir mes nouveaux invités et j'ai un vrai plaisir à les retrouver, parce que alors ça fait des années qu'on suit le Reims Enduro Model Car et j'en ai vu hein, des voitures passer. Alan et Nicolas me font le plaisir d'être en studio avec moi ce soir. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et bienvenue donc derrière le micro de RJR, au moment où, alors je vois toujours passer ce hashtag sur les réseaux sociaux où on est bien au REMC, et je crois que c'est vrai parce qu'on a toujours été parfaitement accueillis lorsqu'on a eu l'occasion de faire des reportages chez vous. Et alors pour la petite blague et la petite anecdote, puisque les gens ne le savent peut-être pas tous, mais RJR est situé dans le lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, je crois que vous avez pris vos petites habitudes dans les lieux, alors pas forcément à la radio, mais chez nos voisins, des jeunes du BTS audiovisuel, j'ai vu ça.
Ouais, tout à fait. On a été partenaire avec le lycée et les étudiants pour présenter un sujet donc pour leurs épreuves de fin de formation.
Tout à fait.
Donc on a fait tout un suivi avec deux petits vidéogrammes, un sur le club pour présenter un peu notre club, nos activités, et un vidéogramme sur la fédération, donc la FFVRC, qui est notre fédération française de voitures radiocommandées. Et on a réalisé effectivement il y a le week-end dernier le plateau final avec
le fameux. Oui, voilà, dans les conditions du direct, avec le stress pour les étudiants parce que c'est leur examen.
C'est leur examen,
tout
à fait.
Et puis vous, parce que quand on se retrouve devant une caméra avec des spots un peu partout, c'est pas toujours quelque chose d'aisé, hein.
Alors c'est une expérience, en tout cas. J'ai un peu l'habitude, parce que justement, je suis issu aussi de cette formation de BTS audiovisuel ici à Saint-Jean-Baptiste. Donc voilà, et puis je suis dans le milieu du spectacle, donc c'est des choses que je maîtrise un petit peu, mais c'est vrai que la caméra, je suis plus souvent derrière la technique que devant. Donc là,
j'ai déjà eu l'occasion de répondre à des interviews, je préfère poser les questions, hein.
Moi, je préfère y répondre que de les trouver pour faire les sujets avec les étudiants.
Ah ouais, bah chacun, voilà, comme quoi chacun a son petit métier. Mais c'est toujours des belles petites expériences. Et puis, ça me permet de faire un petit clin d'œil aux jeunes du BTS audiovisuel qui ne savent pas forcément que la radio dans laquelle je parle ce soir, c'est une émanation de ce BTS. Hein. Donc, ça date d'il y a une bonne trentaine d'années maintenant. Mais c'est toujours bien de se souvenir d'où on vient. Parlons donc voiture radio commandée, donc avec le REMC. On parlait tout à l'heure rapidement de la fédération qui a le doigt donc à son petit sujet dans le cadre du projet avec les jeunes. Fédération qui vous a donc confié l'organisation d'un championnat de France, comme vous avez, j'allais presque dire, la coutume d'en organiser assez régulièrement quand même, parce que moi je pense que je suis arrivé à Reims et à RJR en 2010 ou 2011, j'en ai quand même connu quelques-uns déjà, donc c'est presque une habitude pour vous, non ?
Bah, c'est plus qu'une habitude parce que le Reims EMC a déjà organisé déjà 3 championnats d'Europe et les championnats de France, on a arrêté de compter à 100.
Donc, voilà, oui, c'est bien d'arrêter au club.
Il a 30, il est créé en 87, donc il a 38 ans. Et on fait entre
deux. Vous avez un an de plus que nous, en fait, à la radio.
Oui, c'est ça. Et on fait entre 2 et 3 manches de championnat de France par an. Donc voilà, le compte est vite fait, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé 100.
Et bon, ça dit quand même du dynamisme, alors à la fois du club évidemment, et puis de ses structures, parce que ça veut dire que dans le cahier des charges, ce sont des pistes qui sont quand même appréciées par et la fédération forcément, et par les pilotes.
Les deux déjà, alors il faut quand même préciser que le Reims EMC fait partie des plus gros clubs de France. Ça faisait deux années de suite qu'on était le deuxième plus gros club de France. En nombre de licenciés.
Ah ouais.
Et le plus gros, c'était un club parisien. Donc, c'est-à-dire on est le plus gros club de province, on va dire. devant des villes de Marseille, Strasbourg, enfin des villes beaucoup plus importantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le club dispose de 3 pistes, et donc on est capable d'accueillir toutes les catégories, et c'est pour ça qu'on accueille effectivement tous les ans plusieurs championnats de France.
Alors on reviendra évidemment sur le plaisir que génère, parce que j'ai l'impression que c'est une passion, alors en tout ce qui touche aux voitures, qu'elles soient à taille réelle, taille 1 ou plus petite, c'est quand même une passion qui se transmet, j'ai l'impression, de génération en génération. Donc je pense que ça contribue aussi à votre succès en nombre de licenciés, c'est que l'affiliation se fait correctement en partie.
Alors pour Nicolas, c'est vrai. Pour moi, pas du tout.
C'est vrai ?
J'ai un footballeur et un escaladeur. Enfin, je sais pas comment
mais il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard, mais ils n'y sont pas. Alors Nicolas, lui, ils sont dans le marin.
C'est vrai, les jeunes.
Ouais, moi, j'en ai un qui pratique un peu, le grand, mais le deuxième, plus jeune, qui est très, très mordu, et il lui faut sa dose de petites voitures tous les week-ends. C'est vraiment le rendez-vous de venir les samedis rouler, effectivement, avec les autres.
Et trop bien. Alors, de là à passer le cap du plaisir à la compétition, la liaison est très fine, finalement on passe très vite aux côtés, j'ai envie d'aller plus vite que les autres.
Bah de toute façon, même sur les journées de roulage comme ça, il y a toujours des petits groupes qui finissent par se former, les voitures s'attendent un peu, et puis les gens sont au moins très vite fait quelques tours ensemble pour essayer de voir qui arrive le premier, enfin voilà, qui va tourner plus vite sur la piste. Mmh. Après, effectivement, c'est un peu le but de tout sport, quand on pratique, est-ce que l'autre y va plus vite ? Oui. Est-ce que sur la durée, il va garder la même concentration ? Est-ce que je vais réussir à le rattraper ? Je vais réajuster la voiture ? Mais bon, il y a aussi beaucoup d'échanges autour des pilotes, justement, sur les réglages. Et après, on a aussi quand même beaucoup de pratiquants qui le font qu'en loisir, vraiment pour leur plaisir. On a même un petit rendez-vous, grosso modo, une fois par mois, le Reims EMC loisir, où là, c'est vraiment des gens qui pratiquent le loisir, mais qui, à la fin de la session, en profitent pour faire un petit run, une petite course. Qu'importe les types de véhicules, il n'y a pas vraiment de règlement comme dans les grosses compétitions.
Ouais, c'est vraiment le kiff, quoi.
Mais
c'est
Ouais. On va très vite quand même autour du chrono, quoi.
Et puis alors, au-delà du chrono, il y a tout ce qui tourne autour de la mécanique et tout ce qu'on peut faire sur ce genre de, en termes de réglage, en termes de design aussi, j'imagine. Enfin, voilà, tout ça fait que c'est aussi quelque chose de très passionnel.
Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un sport mécanique le moins cher que je connaisse. Quand on compare à même du karting ou des choses comme ça, mais ça reste un sport mécanique. Mmh. Et donc, effectivement, toutes les règles de réglage d'un véhicule à l'échelle 1 existent. C'est-à-dire qu'on peut commencer par le choix des pneus. On adapte les amortisseurs. On fait varier l'huile des amortisseurs, les raideurs des rosseurs. On joue sur les différentiels et tout ce qu'on veut bien. Donc, tous les paramètres physiques d'un véhicule à l'échelle 1 existe à l'échelle un dixième ou un huitième.
Et ça, aujourd'hui, quand on arrive au Reims OMC, on a besoin d'avoir quand même quelques connaissances, ou alors un néophyte le plus total, il peut être accompagné pour prendre du plaisir à piloter les petites voitures.
Alors, on n'a pas de coach à proprement parler, comme on peut avoir dans des sports d'équipe ou autres. Après, maintenant, les véhicules sont très bien faits. Il y a des très belles notices où on a vraiment des super dessins qui montrent vraiment toutes les pièces. Et puis après, c'est surtout aussi le relationnel. Les gens, très vite, vont discuter avec le voisin dans les stands. Et puis, tiens, t'as telle voiture. Attention, change peut-être ça. Ta voiture, elle va peut-être pas. Et puis, la question ou pourquoi j'y arrive pas là.
Ouais, c'est de l'échange, quoi.
C'est beaucoup de l'échange. On n'a pas d'instruction, enfin un mode de cours entre guillemets, mais c'est beaucoup autour de l'échange entre les gens et puis les conseils qui sont toujours donnés les uns aux autres.
Et d'ailleurs, c'est un peu le but du Reims EMC Loisirs, c'est justement de créer une émulsion de groupe et de partage surtout. C'est pas bon, c'est il y a toujours un petit peu de challenge parce qu'on fait quand même le chronométrage un peu comme on est chronométré quand on fait une session de karting entre copains, mais c'est plus pour créer l'émulsion et un moment de partage. Et ça se passe très bien. Et en plus, là, on est très agréablement surpris de voir que les plus grandes sessions, c'est 25 pilotes de moins de 16 ans.
Donc oui, c'est ça, c'est très jeune aussi.
C'est très jeune. Ouais. Et ce qui est intéressant, on parlait de filiation la dernière fois, on a des pères qui prennent leur licence parce qu'ils accompagnent leur fils.
Ah oui, ça se presque dans l'autre sens.
Ouais. C'est dans l'autre sens. Et ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Et effectivement, d'habitude, le fils suit le père et c'est prendre la même passion. Là, c'est presque l'inverse, c'est intéressant.
Il y a un côté même rassurant, parce qu'on imagine toujours cette génération qu'on pointe du doigt, parce que toujours derrière un écran, peut-être à jouer à des jeux de course d'ailleurs, mais finalement, ils ne sont pas tous comme ça.
Ils ne sont pas tous comme ça.
Oui, c'est plutôt rassurant, effectivement.
Oui, je ne suis pas jamais inquiet sur les générations.
Parlons donc de ces championnats de France qui arrivent, donc 12 et 13 avril. Ouais. On est sur du thermique.
Alors, thermique et électrique.
Okay.
On a deux échelles. Il y a le 1 dixième 200 mm. Donc là, c'est uniquement en thermique. Et après, on a des voitures un peu plus grosses. Donc, ils sont au 1 huitième. 1 huitième, donc c'est les GT8. Mmh. Et là, cette fois-ci, il y a les mêmes véhicules, soit avec motorisation thermique, soit avec motorisation électrique.
L'approche sur une échelle qui, nous, comme ça, quand on ne connaît pas forcément 8e, 10e, elle est vraiment très différente. Déjà, les véhicules sont vraiment beaucoup plus gros en 8e.
Pour donner une ordre d'idée, une 1/8e va peser 3,5 kg à peu près. Une 1/10e aux alentours de 2 kg. Donc ça donne à peu près
ça
caractérise. Après, les performances sont différentes, c'est-à-dire qu'un véhicule 1/10 beaucoup plus vif, mais le record de la piste sont assez proches finalement. Ils vont tourner dans des chronomètres un petit peu similaires, donc c'est pas la même attitude en réalité.
Et en pilotage, sur la prise en main, pour quelqu'un, je reviens sur la question du néophyte, quand on arrive, on sait pas quel type de voiture acheter, façon de la piloter. leur taille non plus. Il y a des conseils où on se dit, bon, bah, quand on est débutant, il vaut mieux prendre tel type de véhicule.
Alors, ce qui est intéressant, déjà, on a beaucoup de jeunes licenciés. On a un partenariat avec un magasin de Reims qui est PP Modélisme. Et eux ont fait le constat qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient leur matériel pour rouler sur des parkings. Et deux fois par an, on fait une session où c'est PP Modélisme qui accueille ses clients à venir rouler dans un club.
Chez vous, ouais.
Voilà. Donc, c'est un échange de bons procédés, un partenariat qu'on a. Et ça se passe très bien parce qu'on a beaucoup de pilotes, justement, qui avaient leur matériel et qui passent la porte d'un club pour la première fois et restent au club. Plutôt que de se lasser à rouler sur un parking ou se dégoûter du sport. Hein. On se lasse très vite à faire des ronds sur un parking.
Oui, ouais. Non, c'est rébarbatif. Oui.
Voilà, c'est rébarbatif. Et du coup, ils rentrent au Reims EMC et avec certainement pas le meilleur matériel, certainement pas ce qu'il aurait fallu idéalement, mais du coup, ils prennent de la maturité sur leurs choix, quoi, sur leurs envies. Il y a des gens qui préfèrent faire de la piste de vitesse sur asphalte, d'autres du tout terrain. On peut pas les conseiller.
C'est là-dessus. Propre à chacun. Ouais.
C'est tout
ouais.
Propre à chacun. C'est comme en vélo, les gens qui font de la vélo de route ou du VTT, il n'y a pas de bonne solution. Il faut juste trouver.
Faut prendre son tournant, faut tester quoi.
Ouais, faut tester.
Ouais. Ouais. Du reste là, on parlait de néophyte, mais sur les championnats de France, on verra ce qui se fait de mieux dans la discipline en France. Je sais qu'à l'échelle internationale, on n'est pas loin d'être quand même parmi les meilleurs. Donc,
on a des bons représentants dans différentes catégories.
J'ai eu l'occasion d'en croiser quelques-uns. Ça pilote quand même pas trop mal. Et donc, on disait tout à l'heure en antenne, on s'approche, vous avez même franchi la barre des 70 inscrits, c'est ça ?
Là, oui, on est sur 70 inscrits. Après, les clôtures d'inscription, il y a encore une semaine d'inscription possible pour les pilotes. Donc, ça fera un beau petit plaisir. Plateau sympa sur tout le week-end.
Sur quelle base d'ailleurs, sur quels critères on peut s'inscrire sur un championnat de France? Parce que moi je m'imagine que c'est réservé aux meilleurs pilotes, donc comment on détermine qu'on fait partie des meilleurs quand on s'inscrit?
Alors, généralement, on s'inscrit pas sur on s'inscrit pas sur un championnat de France à sa première course, généralement.
Oui, voilà, donc, c'était ça l'idée. Ouais.
Donc, dès l'instant qu'on a un peu pratiqué sur des courses de ligue, donc des régionales, on va avoir fait des résultats. Il y a des classements au niveau de la fédération qui regroupent les classements des pilotes en ligue. Ça donne des valeurs, ce qui permet aussi lors des organisations de championnat de France de mettre les meilleurs pilotes ensemble dans les mêmes séries et de pas créer des trop gros écarts. Et après, globalement, dès l'instant que on a fait un peu de compétition, on peut très facilement aller faire un championnat de France sans problème, sauf qu'effectivement on risque de jouer plus dans les sous-qualifications que dans la grosse finale, quoi.
Alors, merci pour ça, parce que du coup, tu as anticipé, Nicolas, un peu ma question. C'est pour les gens, parce que l'entrée sera libre en plus, hein, pour pouvoir profiter de ce beau spectacle que vous allez nous proposer, vous et les pilotes évidemment qui participeront. Comment ça se passe, ça, sur les deux jours? On parlait de séries, etc. Parce qu'il ne faut pas négliger quand même le côté organisationnel. J'imagine que tout ça, ça se prépare.
Alors, tout à fait.
Alors, ça se fait Alors, comment ça se passe? Ça se fait déjà, c'est compétition samedi, dimanche, mais en l'été, il y a déjà le vendredi après-midi. D'essai libre, qui n'est pas obligatoire pour les pilotes. Donc certains pilotes arrivent que le samedi matin en fonction de leurs contraintes professionnelles. Et donc à partir de là, le samedi est réservé aux essais libres, essais contrôlés, il y a des petites subtilités, et aux qualifications. Et le dimanche est réservé à ce qu'on appelle, alors en électrique au final, en motorisation électrique, et en motorisation thermique, on appelle ça les remontées, où c'est un autre système, où on remonte de demi-finale, finale, etc. Donc le système en thermique et électrique est un petit peu différent, mais il faut retenir que le dimanche, ce sont les finales.
Ok, donc vous êtes en train de nous dire que c'est quand même plus intéressant de se retrouver le dimanche sous le soleil. Le 13 avril, la météo peut avoir une incidence.
Oui, grosse incidence. Il faut mieux qu'il fasse beau, on apprécie plus. Alors après, il faut savoir qu'un championnat de France, contrairement à une course régionale qui est souvent annulée quand il pleut, un championnat de France n'est jamais annulé. Où il faut qu'on déclare la piste impraticable. Alors, une piste impraticable, en piste de vitesse comme ça, comme le week-end prochain, il faut vraiment que la piste soit inondée. Donc, voilà. Donc, ça a lieu quoi qu'il arrive. Mais la préférence au pilote est clairement quand il fait beau.
Oui, évidemment, bon, pour tout le monde, hein, je crois.
Non,
hein,
mais c'est clair. Après,
de toute façon. Des pistes, alors je n'ai pas regardé laquelle, mais je sais qu'il y a eu pas mal de changements. Vous avez fait pas mal de travaux. Est-ce que c'était en vue justement de ces championnats de France? Là, vous avez retravaillé un peu?
Alors, on a fait des travaux sur la piste tout terrain, donc c'est
sur
pas
l'autre,
plus
ouais. Okay.
Cette catégorie-là. Donc voilà, on a un nouveau
tracé. Mais vous avez un cahier des charges à ce niveau-là?
Oui,
tout à fait. Au niveau de la fédération, on a des règlements en fonction des catégories aussi. Donc sur des développés minimum de pistes, sur des largeurs minimum en fonction des catégories. Donc nous, on développe toutes nos pistes pour pouvoir accueillir l'ensemble des catégories.
Et la façon dont est considérée la piste, elle doit changer un petit peu le parcours, les virages, les obstacles quand il y en a, etc. Pour histoire de ne pas tomber justement dans une routine où certains pourraient être considérés comme avantagés parce que, je ne sais pas, les locaux connaissent mieux la piste, je ne sais pas.
Alors ça, les locaux connaissent toujours mieux la piste, c'est une certitude. Mais par contre, alors, une piste en asphalte, moi je connais certaines pistes ont 40 ans sans modification.
Ça n'a pas changé, ouais.
Parce que
ouais.
C'est très très lourd à refaire, hein. C'est, faut casser l'enrobé, refaire un enrobé, donc c'est compliqué.
C'est un coût en plus, je pense.
Oui, c'est refaire une piste, je crois que la dernière fois qu'on l'a fait, il y en a eu pour peut-être 60 000 euros à l'époque, quand même.
Oui, c'est pas négligeable. Oui, évidemment.
Et les pistes tout-terrain évoluent beaucoup plus. D'ailleurs, les travaux qu'on a fait sur la piste tout-terrain, le tracé, hormis rerouler, faire une piste, boucher les trous, etc., et refaire une piste plane, on va dire, les obstacles ont évolué et le tracé proprement dit. Mmh. Donc, effectivement, pour casser un peu la monotonie, etc.
Donc ce sera 12 et 13 avril. En revanche, j'ai vu sur, parce que je vous suis quand même sur les réseaux, que il y avait ce qu'on appelle des roulages déjà là le week-end qui vient de passer. Qu'est-ce que c'est exactement en fait?
Alors généralement sur les championnats de France, on a un peu ce qu'on appelle un warm-up, donc l'opportunité des pilotes qui vont pratiquer le championnat de France de venir avant et de s'entraîner. Donc communément, généralement, des fois on les met avec une course régionale. Mais des fois il n'y a pas toujours un franc succès à part les quelques pilotes qui veulent venir, sachant que tous les pilotes qui font les championnats de France se déplacent pas à chaque fois non plus pour faire un warm-up. Donc du coup on avait proposé un week-end de roulage pour les pilotes du CF, inscrits au CF, qui étaient intéressés pour venir découvrir la piste et faire déjà quelques essais.
Voilà. Alors, quel intérêt ça a, j'allais dire, à part prendre quelques repères, mais pour les habitués qui connaissent donc du coup la piste, c'est quoi? C'est vraiment d'aller chercher de la sensation, peut-être
Le modélisme, c'est un sport, hein, donc ça demande de s'entraîner. On n'imagine pas s'inscrire à une course à pied sans même s'entraîner. Donc là, c'est pareil.
Non, on ne s'entraîne pas forcément sur la piste sur laquelle on va être en compétition le jour J.
C'est vrai, mais plus on roule, et meilleur on est. Et plus on est capable de s'adapter rapidement aussi à une nouvelle piste. Et le fait de venir s'entraîner sur la piste, effectivement, chaque asphalte, par exemple, est différent. Donc ça, chaque tracé est différent. Donc ça impose des réglages spécifiques. Et en plus, après, on rentre dans des automatismes de pilotage et c'est comme ça qu'on va chercher les meilleurs chronomètres.
À haut niveau, la différence elle se fait à quel niveau justement? Est-ce que c'est le pilotage? Est-ce que c'est le réglage de la machine? Est-ce que c'est la gestion de l'émotion? Parce qu'on parle beaucoup de mental, hein, de plus en plus, et j'imagine que c'est une discipline où c'est prégnant.
Alors, à très haut niveau, on va avoir la chance d'accueillir par exemple un pilote qui s'appelle Arnaldi, qui est un pilote de classe mondiale, qui a été plusieurs fois finaliste des championnats du monde en piste à 5e, vice-champion d'Europe, enfin qui a un très beau palmarès,
ouais, beau CV,
et X fois champion de France. Et à ce niveau-là, tout rentre en ligne de compte. C'est des pilotes qui règlent, y compris leur radiocommande. Voilà, tout rentre en ligne de compte. Et on a eu la chance de voir, par exemple, des pilotes de très très haut niveau aussi, qui venaient s'entraîner pendant les championnats d'Europe. Eh bien, les pilotes font des essais, font un débrief avec leur mécano. Le mécano prend la radiocommande, reteste lui-même, il vérifie qu'ils sont en accord, et ils font ça sur tout. tous les paramètres,
ouais, y compris tous les détails comptent.
Tous les détails comptent, parce que au plus haut niveau, en finale, par exemple, qu'on a fait en 2018, les 10 pilotes se sont tenus dans la ligne droite tout le long.
Ah ouais, ça c'est formidable. Voilà. Alors ça c'est un beau spectacle.
C'est un très beau spectacle.
Une heure de course. Hein. Ouais. Donc, pendant une heure,
ah ouais, grosse
ils
bataille.
Enchaînent et ils finissent en...
Ouais, vas-y, finis.
Et effectivement, alors ça, on parlait en électrique où c'est des sessions de 5 minutes et finales de 5 minutes. En thermique, au plus haut niveau, c'est des finales d'une heure. Les 5 premiers se tiennent dans le même tour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas louper un ravitaillement, faut pas, tout compte.
Ouais, et c'est pour ça que j'insistais sur la partie un peu mentale, parce que ça nécessite un taux de concentration quand même assez intense, assez élevé, et puis je reviens sur cette capacité à supporter la pression, à la fois dans les attentes que ça génère, et puis aussi parce que, bon, on l'a bien vu, hein, quand on est à quelques détails, à quelques centimètres les uns des autres, c'est une autre forme de pression qu'il faut savoir gérer, quoi, dans le pilotage, parce qu'ils savent faire techniquement, s'ils sont là, c'est qu'ils savent faire, mais par contre il faut savoir le gérer en fait à l'instant T.
Ah bah après, ouais, c'est surtout à haut niveau, les top pilotes, enfin tout se passe dans la tête de toute façon. Il faut être bon. Les vraiment gros pilotes internationaux font pas que de la petite voiture.